raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapané, légiste à Poitiers. Autre chronique d'un médecin légiste, chez Pocket. Voici l'histoire d'un meurtre commis un soir de réveillon, pour pas grand-chose. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est un 1er janvier, et je rentre d'un séjour au ski. Et j'avoue qu'après les fêtes, disséquer un cadavre putréfié, un vieux macabé pourri, alors qu'on digère à peine le foie gras et les huîtres, ça peut vous gâcher la reprise. Mais, coup de chance, mon premier cadavre de l'année est en parfait état de conservation. Il arrive tout droit de l'hôpital, d'abord celui de La Rochelle, puis le CHU de Poitiers. C'est un homme de 44 ans, athlétique. Il a été roué de coups dans la rue la nuit du réveillon. Par qui ? On ne sait pas. Je commence par regarder son dossier médical. À son arrivée aux urgences de La Rochelle, il avait une fracture à la tempe droite, ok ? Une importante contusion cérébrale, une pneumo-encéphalie, c'est-à-dire de l'air dans la boîte crânienne, et une hémorragie en arrière des deux orbites. Et enfin, un œdème comprimant le cerveau. Eh ben dis donc, il a pris cher, hein. Le jour même, il a été transféré en neurochir à Poitiers, ok. Ils ont tenté de faire baisser la pression intracrânienne en faisant un petit forage dans l'os du crâne et en passant une sonde, d'accord. Il est mort 2 jours plus tard. Et donc le procureur de Charente-Maritime me demande de déterminer les causes de la mort. Naturellement, je commence par un examen externe. Il a une grosse plaie au cuir chevelu à l'arrière de la tête, et la lèvre supérieure éclatée, et une incisive qui est partie. Vous avez vu, là ? Sur le nez et sur la joue. On voit assez clairement la marque d'une semelle. Une semelle de chaussure, hein. Et enfin, l'œil droit est fermé par une énorme ecchymose. C'est un carnage. Mais tout ça n'entraîne pas forcément la mort. Et donc je commence à ouvrir. Une grande incision sur toute la longueur, du pubis au menton, les côtes au sécateur. Bon, le thorax et l'abdomen ne m'apprennent rien. Alors, je me lance dans la dissection de la tête, qui a été la cible principale des coups. J'incise le cuir chevelu d'une oreille à l'autre en passant par le sommet du crâne, et je rabats les deux parties, la première vers l'avant, sur les yeux, et l'autre sur la nuque. Et là, je découvre une dizaine de lésions, bien séparées. On les voyait pas, hein, ces lésions, sur le cuir chevelu. Bon, c'est normal, hein, le cuir chevelu est très épais. Faut souvent plusieurs jours pour que le sang remonte et qu'on voit quelque chose dans les cheveux. Et puis, il y a la fracture du crâne révélée par le scanner. Mais quand on la voit, elle est beaucoup plus impressionnante. Elle va d'un bout à l'autre de la tête. Ensuite, j'ouvre la boîte crânienne avec une sorte de meuleuse. Je retire la partie supérieure du crâne, un peu comme un couvercle. Et j'extrais à la main le cerveau. Et ensuite, je le coupe en tranches. Ah ouais. Où on voit clairement les lésions cérébrales, là, vous voyez ? Là. C'est très marqué, hein. Bon, voilà, je sais de quoi est mort cet homme. D'un traumatisme crânien grave, associé à 8 ecchymoses ou hématomes sur le crâne, et 4 impacts violents sur le visage. Voilà donc une affaire rondement menée. Et j'écris tout ça dans mon rapport au procureur. Et quand j'ai terminé, je ne sais pas que cette histoire va me rattraper dans 1 an et demi. Entre-temps, les enquêteurs ont mis la main sur une petite bande de 5 jeunes, dont 2 mineurs, et ils sont parvenus à reconstituer ce qui s'est passé. C'était donc le soir du réveillon. Depuis son balcon, notre homme a vu la petite bande en bas, dans la rue, qui tournait autour d'une voiture. Il s'est dit, ce sont des voleurs, ça n'était pas sa voiture, hein. Mais il est descendu. Et il était bourré, bien sûr. C'était le réveillon. Et voilà, il a voulu les raisonner, et il en a pris plein la gueule. Et il en est mort. Un an et demi après mon autopsie, le juge d'instruction chargé de l'affaire m'appelle.
Dites-moi, docteur, parmi les mises en examen, j'en ai un qui reconnaît le jet d'un petit pavé à la tête de la victime. Hein, il dit qu'il ne l'a pas jeté de loin, il dit à environ 30 cm de distance. Et il dit qu'il ne l'a pas jeté fort. Et il dit surtout qu'à ce moment-là, l'homme s'est écroulé et qu'il n'a jamais plus bougé. Je voudrais donc savoir si c'est le coup mortel, quoi. Vous pouvez travailler là-dessus ?
Heureusement, j'ai conservé le cerveau dans le formol. Je ne l'ai pas entièrement disséqué à l'époque, j'ai juste pratiqué une coupe. Parce que sinon, ça serait de la bouillie. C'est fragile, un cerveau. Et donc, je confie ce cerveau à un confrère qui est un expert en anatomopathologie. Il le regarde au microscope. C'est très intéressant, Michel, hein ? Regarde, parce que au-delà des hématomes visibles à l'œil nu, on a des lésions beaucoup plus discrètes là, tu vois ? Des contusions cérébrales. Et là, il faut que je vous explique. Dans un traumatisme crânien, les lésions cérébrales peuvent avoir plusieurs causes. Il y a d'abord des chocs directs, par exemple, le choc d'un petit pavé, il vient percuter l'os de la tempe, l'os éclate, l'os pénètre dans le cerveau, et il provoque un bel hématome cérébral. Ça, c'est le premier cas. Mais il y a aussi, deuxième cas, des lésions qui viennent d'un phénomène d'accélération-décélération. Exemple, le type tombe en arrière, et sa tête vient percuter le sol. Et là, à l'impact, le crâne est brutalement arrêté. Mais le cerveau a gardé une certaine vitesse, qui est celle de la chute. Et donc il vient à son tour percuter les parois du crâne, sur lequel il s'écrase, et il se déchire. Autre exemple, un coup de pied dans le visage, bam ! La tête part brutalement en arrière, mais le cerveau prend du retard. Il a gardé son inertie. Et donc il vient percuter le crâne au milieu du front. Et quand il y a comme ça plusieurs coups violents portés sur la tête, le cerveau se retrouve à faire la balle de ping-pong dans sa boîte. Et notre conclusion à tous les deux, l'anatomopathologiste et moi, eh bien, c'est qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas dire quel coup a provoqué le décès. C'est comme ça. Deux ans plus tard, me voilà convoqué devant la cour d'assises de Saintes pour le procès de la petite bande. Mais l'un des accusés, celui qui a lancé le pavé justement, n'est pas là. Il était libre et il s'est enfui dans son pays d'origine, de l'autre côté de la Méditerranée. Bien. Son témoignage étant capital pour la compréhension de cette affaire, nous prenons la décision d'ajourner le procès. L'audience est levée. Un aller-retour pour rien. Mais un an plus tard, le type rentre à son chez lui en France. Et il est arrêté. Et je suis donc à nouveau convoqué à la barre, à Saintes. Et cette fois, les cinq sont dans le box. Et juste avant mon intervention, l'un des cinq fait un aveu. Un aveu qu'il n'avait pas fait jusque-là.
Je reconnais que je lui ai donné un coup de pied dans le visage. Je le reconnais.
Ah, je n'avais pas rêvé. C'était bien la trace d'une semelle. Et à partir de là, il y a un doute sur la cause de la mort, dans lequel évidemment les avocats de la défense s'engouffrent. Est-ce que c'est le coup de pied à la tête ou est-ce que c'est le pavé à la tempe? Et moi, voilà ce que je dis à la barre.
Je dirais que c'est l'ensemble des coups. L'ensemble des coups qui entraînent le décès de la victime.
Et le verdict tombe. Ils sont tous condamnés à des peines de 4 à 8 ans de prison. Sauf le meneur qui prend 12 ans de réclusion criminelle. Le meneur est le seul à faire appel. Et donc un an plus tard, je le retrouve seul dans le box des assises de Poitiers. Et je redis ce que j'avais dit la première fois.
Mes conclusions sont que c'est l'ensemble des coups qui provoque le décès de la victime.
Et quand j'ai fini, l'avocat de la défense se lève. Il agite ses manches de façon théâtrale, J'ai l'habitude, hein. Il va passer à l'offensive. Il va essayer de me déstabiliser pour défendre son client. Mais ça ne m'impressionne plus. L'essentiel est de rester calme, de ne pas se sentir agressé.
Monsieur l'expert, êtes-vous sûr qu'il y a eu autant de coups? Parce que moi, je n'en compte pas autant que vous. Hein. Alors je vous en prie, reprenez votre décompte. Je maintiens qu'il y a eu 11 ou 12 coups, dont un coup à la nuque parfaitement corrélé à un hématome. Mais dans ce cas, monsieur l'expert, vous comptez 2 coups, un pour la plaie et un pour l'hématome? Non? Non, c'est un seul impact. Mais je ne peux pas dire si c'est un coup porté par un objet ou par une chute en arrière ou par un coup de semelle en plein visage. Je ne peux pas le dire. Et là, l'avocat reprend ses mouvements de manche. Il quitte sa table, il vient se mettre à ma droite, légèrement en arrière, et il sort le grand jeu.
Monsieur l'expert, j'ai dans mon dossier les avis d'un médecin légiste et d'un neurochirurgien de ma connaissance, dont les conclusions sont totalement en contradiction avec les vôtres.
Je vois le piège, et je n'aime pas ça. Il va distiller des informations censées provenir du travail de mes confrères sans que je puisse avoir la totalité de leurs écrits. Et le président, lui aussi, est surpris.
Maître, je n'ai pas connaissance de contre-expertise. En tout cas, elle n'a pas été ordonnée par le juge d'instruction et à minima, le résultat aurait dû être communiqué aux parties avant le procès.
Je dois mettre tout de suite un coup d'arrêt à cette tentative de déstabilisation.
Maître, je peux m'étonner quand même que vous n'ayez pas fait citer mes confrères à la barre. Enfin, j'aurais eu plaisir à en débattre avec eux.
J'ai à peine terminé que l'avocat de la partie civile se lève d'un bond.
Il a raison. Enfin, c'est un scandale. Ces pièces n'ont pas été communiquées à la partie adverse.
Et là, le président.
Effectivement, c'est un problème. Maître, vous n'avez pas informé la Cour de l'existence de ces documents. Qu'en pensez-vous, monsieur l'avocat général?
Eh bien, j'en pense que les arguments évoqués par monsieur l'avocat de la Défense ne sont pas recevables. Et j'en pense par ailleurs que le docteur Sapané est un expert très sérieux, hein, qu'il a une réputation nationale, voire internationale, et qu'il est très hasardeux de vouloir contester son expertise par des documents que par ailleurs nous n'avons pas.
La Défense a-t-elle quelque chose à ajouter?
L'avocat fait demi-tour et il va se tasser dans son fauteuil. Son coup de poker a échoué. Et la cour condamne l'accusé à 10 ans ferme. Ce que j'ai découvert au cours de ces 2 procès, c'est que cette histoire, ça n'est pas l'histoire d'un cambriolage. Quand le pauvre type qui est mort est intervenu, il n'avait pas l'intention de voler la voiture. Et pour cause ? C'était la voiture du meneur de la bande. En vérité, il voulait y mettre le feu, comme ça se fait chaque année au Nouvel An, pour que le meneur, qui avait des dettes, touche la prime d'assurance. Et donc on a un mort pour une arnaque à l'assurance.
Voilà pour cette histoire que je tire de votre livre « Autre chronique d'un médecin légiste, Michel Sapané » qu'on trouve aujourd'hui chez Pocket. Alors dans cette histoire qui rebondit 1 an et demi après, le miracle c'est que vous avez conservé dans vos frigos à l'Institut médico-légal de Poitiers le cerveau en entier.
Alors ici, le cerveau en entier, oui.
Mais vous gardez tous les cerveaux comme
ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous avez un cerveau qui est sain, qui n'a aucune trace traumatique et aucune trace de lésion médicale, enfin, qui puisse pas être à l'origine de la mort, il n'y a aucune raison de le prélever. On peut éventuellement prélever un petit échantillon pour apprécier des choses comme le vieillissement cellulaire, des choses comme ça. Mais c'est tout, ça va être un petit fragment.
Mais le concept, c'est que vous gardez les scellés combien de temps ? Jusqu'à la clôture de l'instruction ?
Non, c'est pire que ça. C'est jusqu'à la fin de tous les recours possibles.
Donc après la Cour de cassation ? Après le recours devant
non,
la Cour
Non, c'est même après les
la
éventuels...
La Cour en pleine justice ?
Oui, après l'intervention éventuelle de la Cour européenne de justice. Donc en fait, les choses se passent pas tout à fait comme ça, parce que nous, on n'est pas au courant. Hein,
quand je me doute bien.
Vous savez pas quelle est la suite de la procédure. On la connaît pas du tout.
Donc c'est un ordre
tous
de
les
destruction.
Ans, alors voilà, c'est ça. Tous les ans, on sollicite toutes les juridictions qui nous ont ordonné de conserver les scellés pour demander dans quelles affaires ils veulent que nous procédions à une destruction, qui est donc organisé avec des règles très strictes de traçabilité et de biosécurité.
Mais dans vos frigos actuellement à Poitiers, vous avez des morceaux de corps qui remontent à quand?
Alors c'est
plus anciens.
C'est pas, faut pas dire des morceaux de corps. J'aime pas l'expression.
Je comprends que vous l'aimiez pas.
Ce sont
pas,
des
mais...
échantillons d'organes, c'est-à-dire l'équivalent de biopsie, si vous voulez. Sauf que effectivement, c'est un peu plus volumineux qu'une biopsie. Mais pour analyser un foie, vous n'avez pas besoin de prendre une tranche entière.
Ouais.
Il suffit d'un volume d'un pouce et puis ça suffit.
D'accord. Voilà.
Et donc tout ça est conservé alors soit dans du formol dans des locaux sécurisés et ventilés, puisque le formol c'est un toxique, c'est un cancérigène, c'est un pollueur de l'environnement, et donc c'est conservé dans des salles spéciales, soit c'est congelé pour tout ce qui est des prélèvements génétiques en particulier, et là dans des salles de congélation à moins 20 degrés. Pareil pour la toxicologie. La toxicologie, une fois qu'elle est analysée, parce que
toxicologie, c'est le contenu des viscères,
c'est
des
urines. Oui, c'est la recherche des médicaments, des drogues, de des poisons, quoi, au sens large du terme. Il faut qu'elle soit faite le plus rapidement possible après l'autopsie, mais les restes et les prélèvements en double sont conservés en congélation également. Et donc, on fait un ordre. On demande aux différents parquets l'autorisation de détruire.
Ça peut rester combien d'années
dans
le formol chez vous?
Bah ça peut rester très longtemps, hein, parce
10 ans.
Que
la durée d'une procédure.
Ça peut rester. On avait détruit il n'y a pas très longtemps des scellés qui avaient été prélevés lors de l'affaire des anesthésistes de Poitiers.
Ah oui.
Donc
Archambault Diallo. C'est ça.
C'est Madame Berneron, parce que Madame Berneron, c'est la victime de l'affaire.
Archambault
et Diallo, ça a été jugé, ils ont été innocentés. Ouais.
Mais c'est l'affaire qu'on avait appelée Archambault Diallo.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'affaire des anesthésistes de Poitiers.
Donc ça date des années 80, ça.
84. Ouais. Et puis moi, je commençais mon travail à Poitiers en 85. Et donc je suis arrivé dans une.
Et c'est resté pendant tout ce temps-là?
Eh bien, c'est resté une trentaine d'années.
Mais, pardon, mais j'ai envie de me mettre un peu du côté des familles sur ce coup-là. Ce monsieur, sa famille savait-elle que quand elle a célébré les obsèques, le cerveau n'était pas... Parce que le cerveau, c'est pas n'importe quoi comme organe.
Il y a trois organes qui ont une symbolique particulière. Il y a le cœur, parce que c'est le siège des sentiments. Il y a le cerveau, parce que c'est le siège de la pensée, de la conscience, etc. Et il y a les yeux, parce que les yeux, c'est le regard.
Et parfois, lorsque vous rendez le corps, il n'y a ni le cerveau, ni le cœur.
Les deux en même temps, ça fait beaucoup, du coup. Non, mais garder le cerveau entier devrait être exceptionnel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'angoisse métaphysique particulière vis-à-vis des résultats de votre autopsie, vous n'avez pas de raison, dans la majorité des cas, de garder le cerveau.
Mais vous le dites aux gens, mais
c'est
ils
marqué,
le savent pas.
Non, alors il y a les choses ont beaucoup changé assez récemment dans les suites de l'affaire de la morgue de Lens. C'est tout simplement des autopsies judiciaires qui se terminaient par la mise en vrac du corps non fermé et non habillé dans la bière.
Oui.
Voilà, dans le cercueil.
Oui.
Et donc une famille a découvert ça par inadvertance, et ça a déclenché un scandale tout à fait légitime. Et on s'est aperçu à cette occasion, certains ont considéré qu'il y avait un vide juridique sur le devenir des corps médico-légaux après la mort. C'est-à-dire qu'une autopsie scientifique, il y avait l'obligation pour le praticien de refermer le corps dans le respect de la personne, etc. Et cette obligation n'était nulle part visible dans le code de procédure pénale. Bon, c'est-à-dire qu'un légiste pouvait se dispenser de fermer le corps, etc. En fait, c'est pas du tout. C'est une interprétation tout à fait abusive. C'est-à-dire que le respect dû au malade persiste après la mort. C'est un des articles du code de déontologie. Donc déontologiquement, il n'y a pas un médecin légiste qui ne doit pas s'assurer que le corps soit restauré dans des conditions de dignité. Voilà. Et donc, comme il y avait cette espèce de enfin, ce que les journalistes considéraient comme un vide juridique, ça a fait tout un scandale. Alors, c'était un scandale à Lens, effectivement. Mais le rôle du légiste, c'est pas forcément de faire la restauration tégumentaire lui-même. C'est simplement de vérifier que c'est fait.
Il y a des agents d'amphithéâtre qui sont chargés.
Ce sont les, normalement, c'est le personnel de la chambre mortuaire qui fait la restauration tégumentaire.
Mais vous, vous refermez quand même.
C'est eux qui referment, mais on vérifie que c'est fait. D'accord. Toujours. Moi, j'ai jamais.
Mais est-ce que vous dites à la famille, nous avons conservé telle et telle partie du corps dans leur intégralité?
On ne le disait pas parce que ça paraît, c'était une autopsie judiciaire, donc on rentrait pas dans les détails de tout ça. D'autre part, on avait très peu de contact avec les familles. On ne doit d'informations. On est alors très précisément, on est soumis au secret professionnel de l'instruction et de l'enquête, d'accord, qui est au-delà même du secret professionnel classique. Puisque la violation de ce secret est soumise à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc on rigole pas avec le secret de l'enquête. C'est pas avec les médecins légistes que vous aurez des informations dans la presse sur telle ou telle affaire sensible qui n'est pas jugée.
Je n'en ai jamais vu. Voilà. Dans aucune affaire. Ma question est, est-ce que la famille de ce monsieur sait que le cerveau n'est pas dans le cercueil?
Eh ben non, elle le sait pas à l'époque parce qu'il y a.
Aujourd'hui, elle le sait.
Alors maintenant, il y a dans les textes un minimum d'informations qui doivent être mentionnées, non pas à la famille, mais qui doivent être mentionnées dans le rapport. Et si les gens veulent les informations, ils peuvent venir les demander aux enquêteurs et aux procureurs.
Dans l'histoire que je viens de raconter, la bonne année, bonne santé, ce meurtre commis le soir du réveillon, il y a donc un procès, puis un deuxième procès, et je me disais que probablement ça vous prenait énormément de temps, cette part-là. Alors d'autant plus que, mais ça vous le dites pas là, mais on le verra au cours de cette semaine dans d'autres histoires, vous aimez bien arriver en avance. Au procès, vous avez le droit de vous asseoir dans la salle, contrairement aux témoins, puisque vous êtes expert. Donc vous assistez aux dépositions précédentes, quelquefois vous restez un peu après. Bref, vous vous passionnez, mais ça prend un temps fou, ça.
Oui, mais comme c'est la cerise sur le gâteau, c'est bon de profiter complètement du dessert.
Parce que c'est là qu'on comprend où se situe l'expertise.
Ben, c'est souvent là que vous comprenez toute l'affaire. Il y a des fois, vous arrivez aux assises, il s'est passé 10 ans et vous n'avez eu strictement aucune information. Vous avez fait l'autopsie d'un corps qui n'était pas identifié, et puis ça s'est arrêté là, puis vous avez attendu, puis un jour, vous avez un huissier qui débarque et qui vous donne la convocation. Convocation aux assises, auxquelles vous allez sans autre renseignement que votre rapport d'autopsie. Alors, il y a des fois, il y a 3 fois rien, quoi.
Ouais. Est-ce que vous a dit le flic à l'époque, en briefing au début, vous ne l'avez pas non plus, vous l'avez oublié?
Ah non, non, c'est noté ça.
C'est noté ça.
Ah oui, bon. Là, on a un dossier très sérieux dans lequel on a des photos en particulier. Donc quand vous allez aux assises, vous préparez votre comparution. Alors chacun a une façon de faire. Hein. Il y a ceux qui aiment pré-rédiger une sorte de texte, préparer un diaporama, c'est tout à fait possible. Hein.
Oui.
Surtout dans les affaires où il faut faire comprendre des choses difficiles.
Ou jurer, parce que c'est quand même
parce que,
à eux que vous vous adressez.
C'est à eux
que
vous vous adressez, et vous vous adressez à eux exactement comme je fais dans mes ouvrages, dans mes livres. C'est-à-dire, c'est un public qui ne connaît rien. C'est votre boulangère, votre aide-ménagère, un professeur d'université de droit, n'importe qui.
Oui.
Donc on se replonge dans l'affaire. Donc on n'arrive pas non plus avec une mémoire totalement vide.
Alors dans cette histoire, moi ce que je trouve passionnant et en même temps assez vertigineux, c'est que donc vous ne parvenez pas à dire quel est le coup mortel, donc vous n'êtes pas capable de départager les protagonistes.
Non, c'est la science qui n'est pas capable.
Voilà, vous n'êtes pas capable. Mais ce qu'en concluent les jurés, possiblement entraînés par les présidents de cour d'assises qui participent aux délibérés, c'est que du coup, il faut donner la même peine à tout le monde. Et donc, de votre conclusion, qui est un sentiment d'impuissance, ce que conclut la justice, c'est qu'un type qui peut-être n'est pour rien dans la mort de ce type-là, se retrouve condamné à une peine de 4 à 8 ans de réclusion criminelle, parce que vous n'avez pas été capable de dire « c'est pas lui ». Et les conséquences de votre expertise, là, sont lourdes.
Non, mais attendez, c'est un peu simplificateur. Il y a le travail d'enquête. Il y a toutes les déclarations. Il y a l'éventuelle reconstitution criminelle. que je n'ai pas développé pour cette histoire, mais il y avait eu une reconstitution criminelle.
De l'impuissance de votre science à dire c'est lui, lui ou c'est lui, oui. Découle une condamnation générale.
Découle le fait que il y en a pas un qui sort particulièrement du point de vue du mécanisme de lésion, puisque tous ont tapé la tête, alors plus ou moins fort, mais on peut pas quantifier ses forces. Donc pour moi, il y en a pas un plus que les autres. Et après, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui prend plus? Parce qu'il y a un meneur.
Il y a un meneur de bande.
Voilà.
Du meurtre, on ne sait pas, mais de bande, oui.
De bande, oui. Et donc c'est lui qui va prendre plus.
Moi, je répondrais, mais on sort de la matière, que en toute logique, là, je fais un peu mon Dupont-Moretti version avocat, que de l'impossibilité de déterminer qui a tué, on ne peut que innocenter tout le monde, plutôt que condamner tout le monde.
C'est pas ce que prévoit le code pénal.
Michel Sapanet, votre livre s'appelle « Autre chronique d'un médecin légiste » aux éditions Pocket. C'est l'un de vos nombreux livres. C'est de là que j'ai tiré mes deux histoires d'aujourd'hui. Je vous en raconterai d'autres demain. Deux autres tirés d'un autre de vos livres. Merci de nous avoir accueillis ici à Poitiers, Michel Sapanet.
Merci.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.